Science en question par Étienne Klein. On dit que l'univers est en expansion, mais qu'est-ce à dire ? En 1915, Einstein publie une théorie révolutionnaire, la relativité générale, qui vient bouleverser la façon d'envisager la gravitation. Celle-ci n'apparaît plus comme une force qui se déploie instantanément au travers de l'espace, mais comme l'effet de la déformation de l'espace-temps. Ce nouveau cadre théorique, truffé d'équations intimidantes, se révèle vite capable d'agripper l'univers dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement par le biais des objets physiques qu'il contient. En somme, l'univers devient lui-même un véritable objet physique, ayant des propriétés et des attributs bien à lui. Pourtant, dans le langage courant, on persiste à dire que l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe, alors même qu'il est devenu autre chose qu'un ensemble de choses. Par exemple, si l'on supprimait une galaxie de l'univers, l'univers n'en existerait pas moins à l'endroit où se trouvait cette galaxie, car ce que les cosmologistes d'aujourd'hui appellent l'univers, c'est l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire une structure omniprésente, un cadre souple et dynamique, dont la géométrie est déformée, courbée par les objets qu'il contient. Retirer une galaxie, ce n'est donc pas faire un trou dans l'espace-temps, seulement changer la géométrie localement de cet espace-temps. Ainsi défini et dûment mis en équation, l'univers devient une chose prosaïquement descriptible, un être mathématisable et en un sens dépoétisé. Gaston Bachelard a d'ailleurs eu cette formule géniale à ce propos. On parle, dit-il, on parle de l'univers d'Einstein, de celui de De Sitter ou de celui d'Eddington. L'univers est devenu un brevet d'ingénieur. Fin de citation. Dans ce nouveau contexte, la question « l'univers a-t-il une histoire ?» se transforme en « l'espace-temps a-t-il une histoire ?» Si la réponse est oui, comment l'a-t-on su ? Et quels étaient les arguments de ceux qui pensaient que oui, l'espace-temps a bel et bien une histoire ? Et quels étaient les arguments aujourd'hui largement oubliés de ceux qui pensaient le contraire ? Telles sont les questions que nous voudrions discuter aujourd'hui en moins de 45 minutes grâce à mon invité qui arrive tout droit de Belgique. Bonjour Evaline Dubois.
Bonjour Étienne Klein, bonjour à tous.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes docteur en sciences de l'université de Namur. Vous êtes spécialisé en histoire de la cosmologie moderne, ce qui tombe parfaitement bien. Donc vous avez soutenu une thèse récemment. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de faire partie de votre jury. Vous avez mené un travail qui m'a impressionné, d'où cette invitation.
Merci.
Et votre thèse, qui est une thèse d'histoire, est bardée d'équations. De la page 20 à la page 300, je crois, il y a quasiment que des équations. C'est rare pour les thèses d'histoire.
Mais c'est parce que c'est aussi une thèse en sciences et que l'histoire des sciences s'écrit à coup d'histoire d'hommes, mais aussi à coup d'histoire d'équations. Et que la cosmologie s'est faite à partir des équations dues de la relativité générale.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec la présentation que j'ai faite de la relativité générale ?
Oui, après l'objectif n'était pas uniquement de permettre la cosmologie. De mon point de vue de cosmologiste, c'est bien sûr une de ses plus grands résultats et de ses plus bels accomplissements. Oui, en effet. Et puis, cette citation de Bachelard, je l'apprécie assez parce qu'effectivement, à l'époque, on a juste les outils mathématiques pour décrire l'univers. Et donc, chacun y va de son modèle. Et la cosmologie est critiquée en tant que ce n'est pas une science, puisqu'il n'y a ni expérimentation, ni observation. Il va falloir un certain temps avant qu'on puisse faire des observations et que la cosmologie...
Là, vous parlez de la cosmologie, mais la relativité d'Einstein, elle a subi quand même quelques tests qui ont pu faire croire qu'elle avait une certaine validité. Par exemple, à propos de la trajectoire de la planète Mercure ou bien la déviation de la lumière qui a été observée lors d'une éclipse en 1919.
Alors, la théorie de la relativité générale va être testée et effectivement, on va rencontrer des beaux succès. Mais la question, c'est est-ce qu'elle peut s'appliquer à l'univers comme étant un objet physique, comme vous l'avez dit, et aussi à des échelles qui vont grandir au fur et à mesure, puisque Einstein, en 1915, est persuadé que notre univers, ce serait uniquement notre galaxie, la Voie lactée. Et au fur et à mesure des observations, dès les années 20, on se rend compte que c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a d'autres galaxies, il y a des objets au-delà de notre galaxie qui sont très très loin et très très grands. Et donc, est-ce que la relativité générale peut s'appliquer à cette distance-là, ou comme pour la relativité, pour la gravitation de Newton, pardon, il y a des limites spatiales et d'échelle.
Alors, quand est-ce que s'est posée la question de, disons, de l'histoire de l'univers? Non pas de l'histoire des objets qui sont dans l'univers, les étoiles ou même les galaxies, mais l'univers en tant que lui-même aurait une histoire. Quand est-ce que cette idée a surgi pour la première fois?
Alors, il a fallu du temps. C'est le cas de le dire pour une histoire. Il a fallu du temps parce que Einstein lui-même est persuadé et intimement convaincu que l'univers tel qu'il l'observe ne peut être que l'univers qui existait déjà et tel qu'on aurait pu l'observer dans le passé et tel qu'on l'observera dans le futur. Donc l'univers a cette idée de staticité. Il ne peut pas bouger, il ne change pas avec le temps. Il va falloir attendre les observations de la fin des années 20 qui sont dues à Hubble. Enfin, c'est Hubble qui signe la plus grande publication à ce propos, la publication la plus intéressante, où on a une observation d'un mouvement des nébuleuses extragalactiques et un mouvement d'éloignement. Et donc à partir de ce moment-là, on est obligé de concevoir un univers dynamique. Et donc qui dit mouvement d'éloignement en regardant dans le futur, quand on regarde dans le passé, on a un mouvement de rapprochement. Et donc il y a une évolution et il faut commencer à penser l'histoire de l'univers.
Mais peut-être que vous avez là sauté une petite étape, puisque Einstein lui-même avait constaté, aidé par d'autres, qu'il n'existe pas de solution stationnaire de ces équations. Et donc il a un peu changé ces équations pour qu'elles puissent obtenir des solutions stationnaires.
Voilà. Alors Albert Einstein va être convaincu de la staticité de l'univers, et donc il va modifier ses équations jusqu'à arriver à un modèle dit cosmologie d'Einstein qui est statique.
C'est celui-là qu'on appelle l'univers d'Einstein.
Voilà. D'autres, comme Willem de Sitter, vont travailler sur ces équations et lui faire prendre conscience qu'il est possible de parler d'un univers dynamique à partir de ces équations. Et d'autres encore, qui vont avoir un peu moins de poids sur Albert Einstein, comme Friedman, vont proposer toute une série de solutions à partir des équations de la relativité générale, dont la grande majorité sont dynamiques. La question à ce moment-là, c'est est-ce que les maths parlent du monde ou est-ce que c'est juste un modèle? Et donc Einstein va se permettre de modifier les équations en disant non, l'univers doit être statique.
Mais finalement, chaque astronome peut proposer son modèle sans craindre d'être contredit par les observations.
Puisqu'il n'y a pas d'observation. Tout à fait. Chacun y va de son idée. Et ça va continuer comme ça, même après 1929 et la publication de Hubble. Parce que en fait, une fois qu'on sait que l'univers est dynamique, oui, on a appris quelque chose, mais on ne sait pas beaucoup de choses. Et donc, on va continuer à explorer différentes pistes, différents modèles d'univers. Et ça peut se justifier d'un point de vue scientifique et épistémologique. C'est cette idée de dire, on va proposer tout un panel de modèles. Et le jour où on aura une observation, celle-ci va discriminer et choisir dans le panel. Et on n'aura pas perdu de temps. Parce que si on n'avait qu'un seul modèle et que les observations ne vont pas dans ce sens-là, on aura perdu du temps.
Donc on fait le travail théorique à l'avance.
Voilà, on prévoit.
Alors quelles sont les hypothèses, les idées qu'ont les astrophysiciens ou les cosmologistes de l'époque pour tenter de, malgré ce qu'indiquent les équations d'Einstein, penser un univers stationnaire?
Alors ils sont plusieurs à penser cet univers stationnaire, et donc il y a plusieurs idées sous-jacentes à ces modèles. Il y a donc l'idée d'avoir un modèle stationnaire, c'est-à-dire on ne peut pas nier la dynamique, mais on veut qu'il y ait quelque chose de conservé malgré tout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conserver? On peut conserver certaines propriétés, certaines relations entre des grandeurs que l'on observe, ou bien la densité de l'univers observé. Et ça, c'est les différentes motivations qui vont permettre...
Alors, vous citez dans votre thèse énormément de noms.
Oui.
Notamment, il y a le modèle d'Eddington. Alors, en quoi consiste-t-il? Est-ce que ce n'est pas un modèle qui s'appuie sur des considérations qu'on pourrait qualifier de numérologiques?
Oui, et en effet. Eddington va s'intéresser à la constante de structure fine, et plus précisément à l'inverse de la constante de structure fine.
Alors, c'est quoi ça?
Oula, je ne sais pas, je ne suis pas physicienne de formation.
C'est le carré de la charge de l'électron divisé par la constante de Planck divisé par la vitesse de la lumière.
Et
ça mesure l'intensité de la force électromagnétique par un nombre sans dimension.
Voilà. Et Eddington va essayer de prédire théoriquement la valeur de cette constante. et ses prédictions ne collent pas à la mesure expérimentale. Et pourtant, il ne va jamais aller contre son intuition en disant non.
Ce jamais renoncer.
C'est la théorie, c'est la mathématique qui doit expliquer et amener les bonnes valeurs. Après, d'un point de vue cosmologique, il va s'associer un peu à le maître lui-même, donc il ne va pas nier la dynamique de l'univers. Mais cette idée de l'importance des nombres et de l'apport mathématique va être reprise notamment par Dirac, Paul Dirac.
Paul Dirac. Donc qui s'intéressait aux particules, il a prédit l'antimatière, mais il s'intéressait aussi à la cosmologie.
Oui, Paul Dirac a fait un modèle de cosmologie en deux parties. Donc il a publié une lettre aux éditeurs de Nature en 1937, suivie d'un article où il propose tout un modèle en 1938.
Pendant sa lune de miel.
Il semblerait.
Il venait de se marier avec la sœur d'Eugène Wigner.
Et il a fait la cosmologie.
Mais il y a peut-être une relation d'ailleurs entre lune de miel, nuit d'amour et créativité. Il y a l'exemple de Dirac, c'est une hypothèse, mais il y a un cas plus sûr, c'est celui d'Erwin Schrödinger qui a trouvé l'équation de Schrödinger entre Noël et jour de l'an 1925. À l'issue, écrit-il, d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Il était parti au sport d'hiver avec sa maîtresse. Bon, ça marche pas à tous les coups.
Non, ça marche pas à tous les coups.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle de Dirac ?
Dans ce modèle de Dirac, l'idée c'est de comparer des grandeurs entre elles jusqu'à en faire des nombres sans dimension. Donc il va comparer une grandeur de temps, l'âge de l'univers tel que estimé en 1937, à un temps atomique qu'il construit à partir de constantes de la physique atomique. Et donc comme ça, comme il divise un temps par un temps, il a un nombre sans dimension, un nombre pur, comme les mathématiciens les aiment, comme pi. Et il en construit d'autres en comparant des forces, en comparant des masses. Et il se rend compte qu'il a une redondance, donc il va trouver 10 exposant 39, 10 exposant 78, qui est le carré de 10 exposant 39, pardon, 78.
78, 78 on comprend aussi.
Ça va alors. Et 10 exposant moins 39. Et donc cette coïncidence, d'avoir cette redondance de ce qu'il appelle un grand nombre, puisque 10 exposant 39, relativement grand, pour lui ne peut pas être une coïncidence. Il ne veut pas être au moment de l'histoire de l'univers qui permet d'observer cette coïncidence. Donc il va penser un modèle de cosmologie qui conserve cette coïncidence. Et donc si on conserve cette égalité entre les rapports, alors j'ai dit qu'il y avait un rapport de masse, qu'il avait fait un nombre sans dimension à partir des masses, ça veut dire qu'il faut créer de la matière. Et si on considère le rapport de force, puisque j'ai dit qu'il comparait des forces, eh bien il faut que j'ai la constante de gravitation de Newton, d'habitude, varie avec le temps.
Et ça c'est bizarre parce que si j'ai varie, ça veut dire que les forces de gravitation varient aussi.
Oui.
Et du coup, au cours du temps.
Oui.
Et du coup, on perd le principe de conservation de l'énergie.
Oui.
Est-ce qu'il en avait conscience ?
Il en a conscience. Et d'ailleurs, dans le modèle qu'il construit en 1938, en conclusion, il explique quand même que c'est physiquement assez compliqué et contre-intuitif de suivre ce modèle. Il part surtout de la création de matière qui l'embête, tout de même, la création spontanée de matière.
Il était critique de son propre modèle.
Il est critique de son propre modèle et sa conclusion, c'est qu'il existe d'autres modèles qui tiennent mieux la route. Suivons cela.
Vous parlez, Evaline Dubois, dans votre thèse, d'un manuscrit d'Einstein qui aurait été perdu.
Oui.
Il concerne quoi ? Est-ce qu'on l'a retrouvé ?
Alors, on l'a retrouvé. Il n'était pas vraiment perdu et ce n'est pas moi qui l'ai retrouvé. En fait, c'est des personnes qui faisaient des recherches sur un travail d'Einstein et qui ont été dans les archives. Donc ça, c'est un travail de 2014, me semble-t-il. Ils vont dans des archives à la recherche du brouillon d'Einstein. Et alors qu'ils pensent trouver le brouillon d'un article, ils trouvent quelque chose de mal classé, qui est en fait un modèle stationnaire, signé d'Einstein. Et donc ils l'ont déterré, ils l'ont analysé, il y a tout un travail de traduction, un travail d'étude du document pour essayer de dater ce brouillon. Donc il semblerait qu'il date de 1931, donc après l'observation de la dynamique de l'univers. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Et donc si on regarde bien, Einstein essaie de conserver la densité dans son univers, ce qu'il fait, si ce n'est que cette densité est nulle. Et donc il retombe sur l'univers de, de De Sitter.
Mais ça correspond à l'époque où il a admis qu'il y avait une expansion de l'univers, justement.
Oui.
En 1931, je crois.
Oui.
Mais quand on parle d'histoire de l'univers, vous êtes d'accord que ça désigne l'espace-temps lui-même, pas simplement les objets qui sont dans l'univers.
Oui, tout à fait.
Et ce qui choquait les gens, c'est que l'espace-temps puisse être dynamique.
Oui.
Mais que les objets à l'intérieur aient une histoire, c'était admis, non ?
Oui, ça s'est admis parce qu'on est entouré d'objets qui ont une histoire, parce qu'on a commencé, l'astrophysique avance vraiment bien, et donc on se rend compte qu'il y a une évolution des objets, même des objets au-delà de l'orbite de la Lune, quoi qu'en pensait Aristote. Et donc si ces objets sont en mouvement et peuvent vieillir, ça ne choque pas trop, mais le fait que l'univers, l'espace-temps en tant que tel, ait une histoire... Ça pose problème à plusieurs personnes.
Donc vous avez parlé de Edwin Hubble qui a fait des observations. Il y a un autre astronome américain, Vesto Slipher, qui a lui aussi fait des contributions importantes. Mais quel a été le rôle d'un théoricien comme l'abbé Lemaître, qu'en tant que Belge, j'imagine, vous connaissez bien?
Je connais bien Georges Lemaître. Alors Georges Lemaître travaille en Belgique, puis il va tout doucement s'expatrier, notamment pour aller travailler avec Eddington. Et en 1927, déjà, il a vend des possibles observations faites par Slipher et Hubble. Et il les interprète, comme je vous l'ai dit, donc s'il y a une expansion, s'il y a un mouvement des galaxies qui s'éloignent de nous, c'est qu'avant elles étaient plus proches, et qu'avant elles étaient encore plus proches, et donc il va penser un état, il y a très longtemps, un état dense et chaud, qu'il va appeler l'atome primitif. Bien après, cette théorie va passer à la postérité sous le nom de Big Bang, qui est en fait une énorme blague de quelqu'un qui veut se moquer de ce modèle et qui dit, et quoi, vous pensez que ça fait un grand boom au début, qu'est-ce qui se passe? Mais en anglais, ça donne tout de suite mieux et ça donne le Big Bang. Et donc, Georges Lemaître a cette explication-là de l'observation de Hubble. Et donc, il propose, comme tant d'autres avant lui, un modèle cosmologique. Il faut savoir qu'avant ça, il avait proposé un univers lui aussi stationnaire, basé sur des idées de conservation d'énergie et de problèmes de thermodynamique. Il y avait le problème d'un univers qui se refroidit, est-ce qu'on peut penser la mort de l'univers? Donc, Georges Lemaître a proposé un univers stationnaire, et puis a construit un modèle de l'atome primitif, qui est passé à la postérité, et qui va
pouvoir... Qui n'est pas du tout stationnaire.
Qui n'est pas du tout stationnaire, qui est dynamique, et qui a un début.
Mais est-ce qu'on se trompe quand on dit que l'abbé Lemaître, c'est le premier à avoir compris que lorsque nous avons l'impression que des galaxies s'éloignent, en fait elles sont statiques dans un espace qui se dilate?
Je ne sais pas si c'était le premier. C'est un des premiers, en tout cas, à publier à ce sujet, à l'expliquer. Alors il y a eu un tout petit problème de chronologie, c'est que Georges Lemaître publie en français, dans une revue belge publiée à Bruxelles. Et donc la diffusion de cet article ne va pas se faire de manière extrêmement internationale. Et plus tard, quand, sous les conseils d'Eddington, il va publier une traduction de son propre article, lui-même va sucrer des paragraphes. Et donc les anglophones n'ont pas reconnu tout de suite sa paternité, puisque lui s'était dit, c'est bon, tout le monde a compris, je peux me permettre d'enlever les paragraphes où j'expliquais tout.
Mais on lui a récemment rendu justice, puisque la constante de Hubble s'appelle maintenant la constante Hubble-Lemaître, ou Lemaître-Hubble, je ne sais pas dans quel ordre on doit le dire.
Je crois que ça dépendra du chauvinisme et de quel côté de l'Atlantique vous vous trouvez.
Et donc à partir de 1931, on pourrait penser que l'affaire est close. L'univers est en expansion, l'espace-temps est en expansion, et pourtant il continue d'y avoir des modèles statiques qui essaient de survivre en tenant compte de cette donnée expérimentale.
Alors justement, pas des modèles statiques, mais des modèles stationnaires.
Quelle différence vous faites entre les deux ?
Statique, il n'y a pas de dynamique. Stationnaire, il y a une dynamique qu'on ne peut pas nier puisqu'on l'observe. Et par contre, on essaie de conserver quelque chose à travers le temps. Alors en fait, il va être reproché à Georges Lemaître, le fait qu'il soit prêtre, et que donc son modèle proposant un début à l'univers, ça résonne un peu trop Genèse et discours biblique. Et donc, certaines personnes vont proposer d'autres modèles. Et puis, il y a aussi cette idée de se dire, ben, c'est la seule observation qu'on a pour l'instant, il va falloir attendre des années pour avoir une autre très grande observation en cosmologie. Pourquoi ne pas aller voir ailleurs ? Donc, il va y avoir d'autres modèles qui vont émerger, dont le plus célèbre, qui est la Steady State Theory de 1948.
Donc de l'état stationnaire.
De l'état stationnaire.
De 1948, avec trois auteurs.
Alors oui et non.
Non, deux et un, ça fait trois.
Voilà, ils étaient trois amis. La légende veut qu'ils soient allés voir un film un peu fantastique, dans lequel la fin du film était en fait le début du film. Ils se rendent compte que les personnages sont pris dans une boucle, alors qu'eux-mêmes sont dynamiques. Ils ont un mouvement, ils ont une histoire, et pourtant ils sont coincés dans cette boucle. Et ça aurait inspiré ces trois amis pour un modèle stationnaire. Et donc il y a d'un côté Bondy et Gold qui publient un article, et quelques pages plus loin dans la même revue, Fred Hoyle, le troisième compère, publie lui-même un article. Ce qui est assez étrange, c'est que le mot steady state theory apparaît dans l'article de Bondy Gold, et pourtant c'est Fred Hoyle qui va défendre ce modèle jusqu'à son décès en 2001. Et il y a des références croisées entre ces deux articles, un peu... on se connaît bien, on est amis, mais ne croyez pas ce que dit l'autre article. Donc c'est assez particulier.
C'est quand même incroyable que Fred Hoyle, qui, vous l'avez rappelé, a inventé le mot Big Bang, il croyait donc que l'univers était stationnaire, il n'a jamais changé d'avis.
Il n'a jamais changé d'avis.
Même après la découverte du fond diffus cosmologique, qui était une preuve très, très forte, difficile à contester.
Oui, c'est une preuve très forte, d'autant plus que c'était une prédiction. Donc... souvent en science, quand on fait une prédiction et qu'on l'observe après, on est content. Mais pas Fred Hoyle. Fred Hoyle, il a vraiment cette conviction qu'un début à l'univers, il y a quelque chose d'inélégant et puis de politiquement inacceptable. Puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a des considérations religieuses et parfois politiques derrière ses positions. Et donc il va toute sa vie essayer d'aller prendre les observations qui vont dans le sens de la théorie du Big Bang et de les intégrer à sa théorie, de les expliquer autrement. En disant, mais on peut être stationnaire et avoir un fond diffus cosmologique. Ce n'est pas que une prédiction de la théorie du Big Bang.
Est-ce qu'il y a un autre nom qui est très présent dans votre thèse? C'est celui d'un physicien plus connu pour ses travaux en mécanique quantique, en tout cas dans mon périmètre, c'est ainsi qu'on le présente, qui s'appelle Pascual Jordan. Enfin, Jordan, je ne sais pas comment on doit dire.
On va dire Jordan,
qui était allemand d'origine espagnole.
Oui, sa famille est d'origine espagnole.
Et qui a fait des travaux en cosmologie très intéressants, mais qui est complètement oublié parce qu'il a, adhéré au parti nazi en Allemagne, et après la guerre, il a eu quelques ennuis pour trouver un poste. Et ses travaux sont oubliés alors qu'ils ont été très fondamentaux, y compris sur les questions de cosmologie.
Oui, alors ce qui est très intéressant à étudier, c'est que Dirac et Jordan ont des parcours très similaires. Déjà, ils sont presque jumeaux, ils sont nés quasiment à la même époque. Ils ont un intérêt tous les deux pour la mécanique quantique qu'ils font avancer à grands pas tous les deux. Tous les deux vont s'intéresser à la cosmologie pour faire de la cosmologie stationnaire. Tous les deux vont se baser sur cette coïncidence des grands nombres développés par Dirac. Jordan va très loin dans son modèle cosmologique puisqu'il propose assez tôt des observations qu'on pourrait faire sur Terre. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des traces du fait que la constante de gravitation a varié au cours du temps? Et donc Jordan va avoir comme ça une assez grande... Il va être visionnaire, il va avoir des très belles idées en cosmologie. Effectivement, d'un point de vue, encore une fois, politique, il va être oublié. C'est juste en 1949, donc après la fameuse publication des trois compères de la Steady State Theory, où Max Born va essayer de rendre à Jordan ce qui appartient à Jordan en l'invitant à publier dans Nature, en anglais, puisque d'habitude Jordan publie en allemand exclusivement, pour comparer le modèle de la Steady State Theory et le modèle cosmologique développé par Jordan. Et Jordan va continuer à développer sa cosmologie jusque dans les années 50, mais comme vous l'avez dit, Jordan va être privé d'enseignement, va être privé d'équipe de chercheurs, et va être mis au banc de la société.
Mais est-ce que c'était un militant nazi, ou est-ce qu'il a simplement pris sa carte?
Alors c'est pas du tout un militant nazi. Alors son histoire fait que sa famille est issue d'une certaine aristocratie et un certain... patriotisme qui coule dans les veines de Pascual Jordan. Et en plus, si sa famille a dû fuir l'Espagne, c'est parce qu'ils sont protestants pratiquants. Et qu'à une époque, en Espagne, c'était très mal vu d'être protestant. Et donc, à la sortie de la Première Guerre mondiale, Le traité de Versailles ne passe pas très bien auprès de son côté patriote et il a comme peur des bolcheviks et de la possible vague d'athéisme qui pourrait frapper son pays. Et c'est comme ça qu'il justifie le fait qu'il prend la carte du parti, du national-socialisme. Après, il ne va pas avoir de passe-droit parce qu'il a pris la carte, loin s'en faut, puisqu'il souffre d'un bégaiement de stress. Et donc on ne va jamais lui donner la parole pour qu'il représente la science nazie, puisqu'il ne présente vraiment pas bien.
Mais il ne pouvait même pas enseigner.
Il ne pouvait pas enseigner, il rentrait pas dans le moule. On lui a reproché de ne pas être antisémite. Donc ça ne passait pas.
En tout cas, il écrivait très bien.
Il écrit très très bien, il se rattrape comme ça.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans son modèle ?
Alors qu'est-ce qu'il y a dans son modèle ? Eh bien, comme chez les autres, il y a une conservation de quelque chose à travers le temps, malgré la dynamique de l'univers. Et donc chez lui, il va y avoir les mêmes ingrédients que chez Dirac, une création spontanée de matière et une variation de la constante de gravitation. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il propose que la matière qui est créée spontanément, ça soit des étoiles que l'on crée. Et il l'explique en disant que ça ne choque pas les astrophysiciens de regarder le ciel et dire il y a des étoiles jeunes et des étoiles vieilles. Donc s'il y a des étoiles jeunes, c'est qu'elles ont été créées à d'autres moments. Enfin, quand je dis créées, je ne parle pas d'un créateur, mais elles sont spontanément apparues à un autre moment que les étoiles vieilles. Donc créons de la matière spontanément.
Mais ça ressemble beaucoup au modèle de Dirac.
Ça ressemble beaucoup au modèle de Dirac, mais Dirac a eu la précaution de dire il y a d'autres modèles qui valent plus la peine, oubliez le mien. Et Dirac crée du petit, donc il va créer des particules, tout comme Hoyle.
Au lieu de créer des étoiles.
Au lieu de créer des étoiles.
Mais l'idée est quand même la même, il y a une création continue de matière qui explique certains aspects stationnaires de l'évolution de l'univers.
Voilà, chez tous ces auteurs, il y a de la création.
Est-ce que vous avez été capable, en regardant leur biographie, leurs travaux, d'identifier des raisons communes qui seraient métaphysiques, religieuses, esthétiques, militants, à leurs yeux en tout cas, pour que l'univers soit stationnaire et n'ait pas d'histoire avec un commencement?
Alors, il y a différentes motivations. Chez Dirac, je l'ai dit, c'est le fait d'observer une coïncidence et de se dire « je ne peux pas être à un moment particulier qui me permet de l'observer ». Donc il y a une sorte de principe copernicien, je ne suis pas au bon moment, au bon endroit pour observer ce que je fais, c'est partout pareil, c'est tout le temps pareil. Et donc Dirac part de là, de cette coïncidence dont il ne veut pas. Chez Hoyle, il y a l'idée de généraliser un maximum les équations de la relativité générale, en essayant de les rendre jolies et symétriques, et que ça soit tout le temps vrai, et qu'il n'y ait pas d'évolution. Enfin, il y a une dynamique à l'univers, mais il y a quelque chose qui est conservé, comme la densité. Chez Bondy et Gold, c'est aussi un principe plus théorique et plus épistémologique, c'est-à-dire que les lois de la physique sont vraies partout, pourquoi elles ne peuvent pas être vraies tout le temps? Et donc l'univers devrait être semblable à lui-même en tout temps. Chez Jordan, il va camoufler sa motivation en disant c'est purement heuristique, on n'a pas d'observation, proposons ce panel de théories. Après, c'est certain qu'il y a des considérations plus métaphysiques et aussi un certain respect pour Dirac, qu'il cite vraiment beaucoup. Il cite Dirac et il dit « Dirac a arrêté son modèle, mais on peut aller plus loin ». Et il y va. Il fait l'héritage de Dirac de son vivant.
Évaline Dubois, dans votre thèse, vous parlez aussi assez longuement et de façon très précise de cette controverse de 1937.
Oui.
Alors, quel était l'enjeu ?
Alors en 1937, il y a Herbert Dingell, qui est un physicien et philosophe des sciences, qui est déjà à l'auteur d'une controverse en 1931. Mais en 1937, il lance une controverse en accusant Eddington, Dirac et Milne, dont on n'a pas encore parlé, de faire de la mauvaise science. Et pour lui, l'insulte, c'est de les traiter de nouveaux aristotéliciens, d'aristotélianistes modernes. Et il leur en veut, parce qu'en partant comme ça d'idées préconçues, qu'il ne peut pas avoir de coïncidence, que les mathématiques doivent donner les valeurs des constantes, ils ne font plus de la science expérimentale, ils ne font pas de déduction, mais ils font de l'induction. Et ce faisant, ils trahissent la science et, qui plus est, la science britannique.
C'est un débat récurrent dans l'histoire de la physique.
C'est un débat récurrent qui là prend des proportions, on est en 1937, il y a plusieurs régimes politiques qui essayent de, de guider la science qui se fait dans leurs états. Et c'est assez marquant, puisque Dingell, en exergue de cette critique, va citer la charte fondatrice de la Société des sciences britanniques. Et donc, il y a un petit peu de « vous êtes en train de trahir la science britannique, qu'êtes-vous en train de faire ?» Et donc, cet article est juste une accusation, mais ça va mener à un débat. Et donc, Nature va proposer à plusieurs auteurs de publier leur réaction. Donc, bien sûr, les trois personnes attaquées ont un droit de réponse. Et puis, il y a plusieurs scientifiques de tout horizon. Il y a des philosophes, il y a des biologistes qui viennent donner leur point de vue sur cette problématique.
Donc, ils se mettent là à discuter du statut épistémologique de la cosmologie, finalement.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que Dirac prend part à la controverse ? Je crois savoir qu'il n'aimait pas trop les débats philosophiques.
Non. Et Dirac botte assez en touche. Donc on a quand même les trois personnes attaquées. On a Eddington qui rit, qui dit franchement, vous m'avez bien fait rire en attaquant ma théorie, restez où vous êtes. Mill ne se défend et on sent qu'il est vexé. Et Dirac est plutôt conciliant, en disant oui mais non, vous dites que je ne pars pas de l'expérimentation. Mais si, puisque quand je fais mes rapports entre mes constantes, mes constantes, elles viennent d'où ? Elles viennent des mesures. Et donc bien sûr que si, je regarde le monde et je ne pars pas d'une idée.
En 1948, c'est-à-dire l'année où apparaît ce modèle quasi-state, modèle de...
La steady state théorie de Hoyle, oui.
De Hoyle. Il y a aussi des travaux de Gamow, qui lui montre que l'univers dans le passé devait être plus chaud, et lui va, avec ses collègues, prédire un rayonnement qu'on appelle aujourd'hui le fond diffucosmologique, qui va être détecté quelques années plus tard, en 1964. Et il me semble que cet événement aurait dû calmer beaucoup de monde.
Oui. Alors, ce qui est assez bizarre dans l'histoire de la théorie du Big Bang, c'est qu'en fait, Georges Lemaître va changer de carrière, va s'intéresser à d'autres problématiques, et donc il ne va pas être défenseur de sa théorie, comme Fred Hoyle a pu être fervent défenseur de la sienne. Et c'est Gamow qui, avec ses étudiants en thèse, va reprendre cette théorie de l'atome primitif, la développer, essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de prévoir et de prédire des observations telles que ce fond diffus cosmologique ou ce rayonnement fossile. Le problème est que Gamow n'a pas bonne presse. Et donc, c'est...
Pourquoi ? Il boit trop ?
Oui, il est clairement alcoolique.
Mais il est alcoolique, mais il fait aussi beaucoup de bonnes blagues en cours, je crois.
Oui, alors il est bonne presse près des étudiants, dans le milieu scientifique un peu moins. Si on lit les comptes rendus, les témoignages de ses doctorants, ce n'est pas bien facile d'aller en conférence avec lui. Et donc, cet article de Gamow...
Ses dernières paroles sur son lit de mort ont été, finalement, mon foie paie l'addition.
Voilà. Et donc, oui, il y a bien ces idées de, la théorie du Big Bang ou l'atome primitif, on pourrait avoir des observations, mais on n'a pas les outils pour observer ce fond diffus, cette température, ce rayonnement fossile qu'il prédit. Donc, ça ne clôt pas du tout le débat.
Et pourtant, il va prédire ce rayonnement, estimer la température qu'il doit avoir, et il va être découvert un peu par hasard, et avoir une température très proche de celle qui avait été calculée.
Oui, il a tout à fait raison. Mais ça, ils sont nombreux à avoir raison et ne pas être
entendus. Mais c'est ça qui a validé ce qu'on appelle le modèle de Big Bang.
Oui, c'est cette prédiction de Gamow.
Au-delà de l'atome primitif de la Bellomètre, il y a cette histoire de nucléosynthèse, de fabrication des noyaux, de température, qui est un modèle beaucoup plus précis que celui de la Bellomètre.
Tout à fait. Et donc, c'est cette prédiction faite par Gamow et ses étudiants qui est observée et qui aurait tendance, et qui, chez la plupart des scientifiques, clôt le débat. Alors, il y a bien eu des essais avant, au début des années 60. Il y a Martin Ryle qui observe les quasars et qui publie « Je viens de montrer que la steady state théorie, c'est faux ». Sauf que ces données ont des barres d'erreur bien trop conséquentes que pour ne tirer ce genre de conclusion. Et à ce moment-là, c'est en 1964-65, avec cette nouvelle observation, que la cosmologie va un peu gagner du galon et il va réattirer des personnes et on va réécrire, on va refaire des modèles cosmologiques. Enfin, on aura choisi le modèle cosmologique du Big Bang. Et étonnamment, Dirac, dans les années 70, va revenir à son modèle stationnaire.
Oui, c'est ce que j'ai appris grâce à vous en vous lisant. Je ne savais pas du tout cet aspect des choses. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire comme retour en cosmologie ?
Alors, on a un peu l'impression que Dirac trie ses papiers et retrouve son modèle. Ou est-ce qu'il
recommence ?
Il recommence.
C'est cyclique.
Il explique potentiellement le fond diffus cosmologique, puisque là aussi, il peut retrouver des correspondances de constantes, enfin de nombres non dimensionnés, qui sont aussi de l'ordre de 10 exposant 39. Et il propose une observation à partir de l'expérience qui est en cours à cette époque-là, celle de Shapiro, puisque selon son modèle, il y aura soit un agrandissement, soit un rétrécissement de la distance Terre-Soleil, puisque G varie, la constante de gravitation varie, il doit avoir des conséquences même à l'échelle du système solaire. Par la suite, les données de Shapiro révéleront qu'il n'y a pas d'évolution de cette grandeur et donc qu'a priori...
Oui, on ne peut pas compter sur l'éloignement du Soleil pour nous guérir du changement climatique.
Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas faire ça.
Et donc Dirac revient et finalement va devenir le fossoyeur de son propre modèle.
Oui, puisqu'il propose cette observation qui ne va pas aller dans son sens. Mais je n'ai pas trouvé de traces écrites et publiées de lui qui revient en disant « Bon, ben, j'avais un modèle, je l'ai ressuscité et en fait, ça valait pas le coup. » Il s'est arrêté à « Attendons les données de Shapiro » et puis...
On a l'impression, enfin c'est même sûr en vous lisant, Évaline Dubois, que vous avez fait un travail d'historienne. Et d'habitude, on raconte l'histoire des vainqueurs. On cite toujours les mêmes noms, Einstein, la constante cosmologique, Friedman, l'abbé Lemaître, évidemment, Vestos-Liefer, Edwin Hubble, Gamow, le fond diffus cosmologique. Et on oublie complètement tous ces modèles alternatifs qui avaient des grandes vertus théoriques parfois et qui étaient très puissants d'un point de vue intellectuel ou calculatoire. Et on les a complètement oubliés dans l'histoire officielle. Est-ce que c'est une leçon que vous seriez prête à appliquer à toute l'histoire des sciences ?
Je crois qu'il y a toujours à gagner et à apprendre de ces... j'ai du mal à les appeler les perdants, mais de ces modèles oubliés ou de ces théories oubliées, parce qu'elles ont apporté énormément. Elles ont permis de challenger la théorie qui a pris le dessus et de lui poser des questions. Et quand on voit comment évolue maintenant la théorie du Big Bang, qui devient une théorie du Big Bang chaud avec lambda CDM, donc matière noire froide, et ça prend des proportions énormes. Et en fait, on se rend compte que les outils mathématiques utilisés pour décrire, par exemple, l'inflation, peuvent être trop...
Qu'est-ce que c'est que l'inflation ?
Alors l'inflation...
Ce n'est pas économique ?
Non, l'inflation cosmologique, c'est un moment du début de l'univers où l'expansion a été très très rapide et très très brusque.
Et ça, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse qui fonctionne bien. Et le modèle mathématique de cette hypothèse, en fait, on retrouve les mêmes maths dans la théorie de Fred Hoyle.
On veut dire que les théories, disons, entre guillemets, perdantes, ont aidé à la formulation de la théorie gagnante.
Je crois, oui, qu'on a été piocher les bons ingrédients.
Et qu'est-ce que... Je perds le fil, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème.
Quelles sont les questions qui vous intéressent aujourd'hui en cosmologie ? Par exemple, quand on vous parle de matière noire ou d'énergie noire, chose qui n'était pas discutée dans les époques qu'on vient de traverser, est-ce que, à votre avis, ça relance le statut épistémologique de la cosmologie ? Puisque finalement, on fait confiance aux lois physiques pour dire qu'il existe de la matière, de l'énergie invisible, noire, alors qu'on pourrait tout aussi bien remettre en cause les équations de la théorie pour tenter de rendre compte de ce qu'on observe sans avoir à invoquer de telles entités mystérieuses.
Mais, en fait, c'était là ma motivation à regarder ces modèles stationnaires. C'est surtout celui de Fred Hoyle, la steady state theory, qui a été énormément critiqué, puisque tout au long de son histoire, il y a un peu une dynamique de « on va rafistoler le modèle pour essayer d'expliquer les observations ».
Comme les épicycles de Ptolémée.
Un tout petit peu, oui. Et je me demande à quel point rajouter de la matière qu'on ne voit pas et de l'énergie qu'on ne voit pas, est-ce que c'est pas là aussi créer des épicycles ? Bon, c'est assez dur de critiquer la théorie actuelle, du coup il est plus facile de prendre appui sur ces modèles-là. Et en fait, ma question aujourd'hui aux cosmologistes modernes et mes collègues, en fait, c'est de dire, on est plus ou moins tous d'accord pour critiquer la steady state théorie de Fred Hoyle, pour voir ses mauvais penchants, pour voir à quel point, en fait, il était têtu. Il y a un moment, il faut abandonner. Quand toutes les observations vont dans le sens contraire, il faut arrêter de sauver son modèle à tout prix. Et pourtant, on n'arrive pas à voir la paille dans notre propre œil et se dire qu'on est en train de faire exactement la même chose, de rajouter des ingrédients parce qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'on observe. Et j'avoue que la théorie de Newton s'étiolait, il y avait des problèmes d'observation qui ne collaient pas et on a remercié Einstein de nous proposer une relativité qui permettait d'expliquer la gravitation et de corriger les problèmes de la théorie Newton. J'aimerais voir arriver celui qui corrigera la théorie de Lemaître et qui permettra une cosmologie moins bancale, avec moins d'ingrédients invisibles.
Évaline Dubois, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Faisons l'expérience de pensée. Imaginons qu'Einstein revienne. Mm-hmm. Il est là en 2021 et il apprend tous les progrès de la cosmologie que vous avez évoqués. Prend connaissance de ce modèle canonique qui s'appelle le modèle de Big Bang, avec tous les paramètres qui vont bien, l'hypothèse de la matière noire, celle de l'énergie noire. À votre avis, quelle serait sa réaction ?
Alors, je ne le connais pas assez, donc je ne vais pas parler nom. Mais je crois d'abord
qu'il... Qu'est-ce qui le choquerait ? Qu'est-ce qui lui plairait ?
Je crois qu'il serait tout d'abord étonné, puisque lui-même n'était pas vraiment friand de la théorie de Georges Lemaître. Il l'avait critiqué, l'anecdote veut qu'ils disent que ses maths soient très bonnes, mais sa physique...
est abominable.
Abominable, donc voilà. Pourtant, et dire qu'on avait demandé à Georges Lemaître de s'occuper d'Einstein pendant son passage en Belgique, voilà, ça a dû être...
Ils se sont rencontrés, évidemment.
Oui, sous ordre royaux. Je crois qu'Einstein serait assez étonné de voir ce qu'on a fait, des progrès observationnels. Jamais il aurait pu imaginer toutes les observations qu'on fait, le satellite Hubble qui s'en va mesurer, on attend le satellite Euclide.
Même les ondes gravitationnelles.
Même les ondes gravitationnelles que l'on observe et qu'on mesure.
Formées par des trous noirs auxquels il ne croyait pas.
Voilà. Je crois qu'il y aurait d'abord une phase un peu d'ébahissement et il va falloir un certain temps pour qu'il s'habitue à où on en est aujourd'hui. Ensuite, j'espère qu'il taperait du pied dans la fourmilière en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ?» Je suis revenu de ma constante parce que c'était un artifice mathématique. La constante cosmologique, pardon. Je l'avais rajoutée à la main et on m'a dit que c'était pas une bonne idée. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire la même chose ? J'ose croire qu'il taperait un peu.
Mais peut-être qu'il militerait pour dire que la constante cosmologique qu'il avait introduite en 1917, dont il a dit en 1931 que c'était une erreur, mais il y a certains physiciens qui pensent que c'est un bon candidat pour l'énergie noire.
Oui. Ça fait sens maintenant.
Donc il pourrait dire que son erreur, en fait, était la clé d'une énigme apparue après sa mort.
Il pourrait s'en vanter. Cette idée-là nous a beaucoup aidés. Comme quoi, à chaque fois, les soi-disant les perdants nous donnent plein d'idées pour faire avancer la théorie qui gagne.
Pour finir, Évaline Dubois, je voulais vous faire réagir à cette phrase du poète Rilke qui dit ceci. « Nous sommes les abeilles de l'univers ». Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible.
C'est beau.
Est-ce que ça vous semble correspondre à la démarche de ces cosmologistes qui voient peu de choses mais pensent beaucoup ?
Oui, et qui butinent énormément. Et je crois effectivement qu'ils projettent et qu'ils pensent et qu'il y a énormément de travail abstrait et d'imagination, puisque... on n'aura jamais accès à tout ce dont on parle. Donc c'est assez compliqué.
Merci Évaline Dubois d'être venue jusqu'à nous.
Merci à vous.
Namur, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Enki Bilal.